parce que la menace judiciaire et pénitentiaire est là pour nous faire taire.
Parce que police et justice sont là pour qu'on leur obéisse.
Parce que le maton et la zonzon sont là pour casser ceux qui disent non.
Parce qu'ils nous enferment à perpète ou à court terme, pour qu'on baisse la tête et juste qu'on la ferme.
Alors fini de tendre la joue, maintenant on veut rendre les coups.
Ne plus fermer les yeux, ne plus jouer leur jeu.
Ne plus avoir peur et de tout son cœur.
Crier haut et fort, on veut plus de mirador.
Faire du son contre la prison.
Briser les chaînes.
Tisser du lien.
Avoir la haine et soutenir les siens.
En acte et en pensée.
Ne pas oublier.
Rendez-vous, vous êtes concernés le 5 mai à Saint-Thé.
Mais aussi sur les ondes pour se jouer des rondes.
Sur cette radio et sur plein d'autres, un concert de rap en direct.
Avec Fils du Béton, Missa, Thaibox, RPZ.
Une lutte, une fête. C'est le 5 mai de 21h à minuit.
Du son contre la prison.
.4, l'émission N déchaîne, une semaine de plus qui s'enchaîne pour déchaîner à nouveau tout notre haine. Et mieux encore. Et donc pour tous les autres, amour et paix.
Et ouais, ce soir donc au programme, un petit amour et paix, ça va pas ou quoi?
Ça va quoi?
Et ce soir au programme.
Au programme, un petit voyage voilà, avec divers brèves d'actualité sur ce qui se passe un peu ailleurs, hors de nos frontières, parce que nous n'aimons pas les frontières. Et voilà, et rediffusion d'un montage qui s'appelle Homo Porcus, qu'on vous représente, qu'on vous reparlera et représentera le moment venu. Voilà, une des chaînes tous les lundis à 20h, et ce soir on est en pleine forme.
Pas la peine, je connais la rengaine, mais je n'ai pas la force. Mon amour pour la vie s'est soldé par un divorce. Donc nous sommes bien sur une des chaînes 88.4. On va commencer par un petit agenda actu plus qu'agenda. Avec, nous allons tout d'abord parler donc d'un pays très très lointain que nous ne connaissons pas bien.
Tabernacle.
Tabernacle. Ouais. Tape dans le fond, je bats ta mère.
Ton parfum, private joke, excusez-nous. Voilà, le Québec. Donc, Québec, pourquoi Québec? Parce que, donc, on n'entend pas beaucoup parler, mais qu'il y a pas mal d'événements qui se passent là-bas, notamment depuis la fin février, donc dans le milieu étudiantin, sur les bancs des universités, où en fait, bon, il y a une décision du gouvernement québécois d'augmenter les droits de scolarité. Donc, la même logique un peu partout où on rencontre dans le monde. Et voilà. Et donc, depuis 3 mois, il y a eu beaucoup de gens qui sont descendus dans la rue, manifestés, beaucoup d'actions. Et c'est monté de plus en plus en pression. Et notamment, donc, la semaine dernière, beaucoup de violents affrontements. Notamment parce que des manifestants avaient tenté d'occuper le palais des congrès. Voilà, à l'occasion d'un forum stratégique sur le développement minier du Grand Nord québécois. Voilà. Bon, ça a duré plusieurs heures, fatalement. Alors après, ce qui est assez intéressant là-bas, c'est que c'était la même logique. C'est-à-dire que le gouvernement québécois a ouvert la voie à un dialogue sur les prêts et bourses pour les étudiants, à condition que ceux-ci dénoncent la violence étudiante. Et voilà. Et du coup, pour le coup, ça n'a pas trop marché sur le moment. C'est-à-dire que donc, les représentants des mouvements étudiants, donc associations étudiantes et compagnie, on dit à la base, de toute façon, ce n'est pas sur les prêts et les bourses, mais sur le prix de l'entrée en fac, et qui refusait de condamner les violences. Et voilà, du coup, ça continue, et voilà. Et donc, beaucoup d'affrontements dans la rue qui se dispersent de quartier en quartier. Et voilà, c'était juste pour faire la petite brève de ce qui s'était passé là-bas, avec des, bien sûr des occupations d'universités, des occupations de grands médias. Et voilà, donc on vous invite à suivre un peu ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe là-bas.
Voilà. Moi je rebondis si je puis me permettre pour parler du Black Cross dont vous avez souvent entendu parler j'imagine et surtout un appel qu'ils font au sujet d'un anarchiste russe de Moscou qui s'appelle Alexei Soutouga et qui, d'après Black Cross, a besoin de votre aide. Donc, c'est un anarchiste russe qui a été arrêté, placé en détention dans un centre de détention provisoire. Et pour le défendre, l'anarchiste Black Cross de Moscou lance un appel aux dons. Ils ont besoin d'argent. Donc, voilà, c'était à Moscou le 17 avril. Cet anarchiste antifasciste et membre de l'Action autonome. Il a été arrêté. Presque 24 heures après son arrestation, on a appris qu'il avait été envoyé dans un centre de détention dit provisoire numéro 2, connu sous le nom de Bourtika. Voilà, la police dresse contre lui les mêmes accusations qu'il y a déjà contre l'antifasciste Alexis Olesinov. Ils ont le même prénom. Donc c'est les deux Alexei. Et qui lui est détenu depuis plus d'un mois, donc beaucoup moins détendu, j'imagine, et dont on l'accuse d'être complice dans un incident qui a eu lieu le 17 décembre 2011, qui avait vu l'affrontement entre des gardiens nationalistes d'un club de foot, j'imagine, attaquer le local des antifascistes. En fait, c'est les FAF après qui ont accusé les antifascistes de s'être fait agresser. Donc voilà, ils ont quand même des chaînes, on tenait quand même à le rappeler, quoi, parce qu'on voit très clairement une montée assez évidente de... Enfin, plus qu'une montée, même peut-être tout du moins un retour des ultranationalistes et ultranationalismes divers, un peu partout en Europe et même dans le monde. Donc c'est l'occasion pour nous de le rappeler, sans oublier qu'aujourd'hui, quand même, l'agresseur principal de nos vies, c'est quand même le capital et son économie. Donc cet anarchiste, une fois de plus, comme plein d'autres et tous les enfermés, a tout notre soutien. Nous entendons aussi l'alarme en rappelant de ne pas se tromper de cible.
Ouais.
Alexei.
Et...
Peut-être juste dire qu'il y a un anarchiste Black Cross qui existe à Marseille et que régulièrement, ils font des bouffes de soutien au seul problème qui se situe rue Consola. Et je pense que les infos, elles sont sur le site de Mille Babord.
Voilà,
et
juste y rappelons qu'en ce moment, en Russie, puisque ça s'appelle comme ça, si certains ont la mémoire courte, ou longue, et qu'il ne fait pas bon être anarchiste en ce moment là-bas, apparemment, voilà.
C'est sûr. Et dans les autres luttes qu'il faut soutenir, il nous semble, il y a quelque chose qui n'a pas forcément grand-chose à voir, mais ce qui se passe en Andalousie en ce moment, où il y a des journaliers, donc des ouvriers agricoles journaliers, qui ont récupéré des terres, alors dans un coin qui s'appelle la Finca Somonte, c'est près de Palma del Rio, dans la province de Cordoue. Et donc depuis le 4 mars exactement, il y a 500 journaliers agricoles qui font partie du SOC, qui est le syndicat andalou des ouvriers agricoles, qui ont donc récupéré une terre qui était, dont la vente était prévue aux enchères pour cette date-là, qui se sont installés dessus et qui, depuis, essaient de lancer à partir de là des initiatives pour créer, comme ils le disent eux-mêmes, non pas une coopérative de salariés, mais une coopérative de résistance, assurant la survie et un lieu de vie pour de nombreuses personnes frappées par la crise. Voilà, donc c'est une région où il y a 25% de la population qui est au chômage, donc un chômage important, notamment... depuis la crise. Et voilà, et du coup, ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu d'initiative de ce genre. Le SOC, donc ce syndicat ouvrier, était assez, pourtant assez habitué des occupations de terres, et notamment dans les années 70, il y en avait eu pas mal. Là, ça s'était un peu interrompu, donc c'est voilà, à nouveau une initiative qu'on peut souligner, même s'il y a, il nous semble, un aspect un peu médiatique de cette lutte, avec pas mal de gens de divers bords qui y passent, et notamment la gauche unie, partie de la gauche unie en Espagne. Voilà, cela dit, ça peut quand même être un espace où les gens ils tentent de s'organiser et de créer d'autres rapports que ceux de la production. Donc ça a quand même cet aspect-là qui est intéressant. Voilà, je peux peut-être vous lire juste un petit extrait de ce programme pour la réforme agraire qui avait été fait par le SOC. Notre philosophie peut se résumer de la façon suivante. La terre, comme l'air et l'eau, est un don de la nature que personne ne peut s'approprier pour son profit individuel ou pour son enrichissement privé. La terre est un bien public, propriété du peuple, qui doit être à l'usage et à la jouissance de ceux qui y vivent et qui la travaillent. Si alors la terre n'est à personne, la propriété de la terre est un vol. C'est pour cela que nous demandons l'expropriation sans indemnisation. Voilà, et donc, voilà, bon, c'est une lutte peut-être à suivre un peu de plus près. Voilà, il se passe aussi pas mal de choses en Chine. Alors, ça a un peu un rapport, parce que c'est aussi sur des histoires de terres, etc. C'est dans le sud-ouest de la Chine, dans la province du Yunnan, où il y a des paysans qui se sont rassemblés devant un bâtiment gouvernemental ces jours-ci pour s'opposer aux activités d'une société minière. Donc la police a essayé de disperser la manifestation, mais les villageois ne se sont pas laissés faire et ont donc attaqué les flics à coups de machettes et de bâtons. Ils en ont donc blessé 15 et tué 1. À l'origine de cette révolte, il y avait les activités donc, d'une mine de charbon de la région qui, semble-t-il, met en péril les terres des habitants. En Chine, les émeutes, elles sont assez fréquentes. On en avait déjà parlé à d'autres occasions, dans d'autres émissions. Et souvent liées notamment bon, aux conditions de travail ou alors à cette avancée des zones industrielles et à la pollution qu'elles génèrent et notamment aux expropriations de terres qui sont subies par les paysans assez régulièrement. Voilà, donc comme ailleurs dans le monde, les richesses du sous-sol, elles attirent un tas de vautours qui raflent tout. Et les pauvres, ils se retrouvent encore plus pauvres qu'avant, dépossédés du peu qu'ils avaient. Quand leurs terres, elles ne leur sont pas purement et simplement confisquées, elles sont pourries par les déchets de ce monde. Et du coup, ben, la seule solution qui s'offre aux gens qui habitaient là, c'est de bosser pour les envahisseurs. Voilà, donc comment on crée un monopole et puis de la dépendance.
Ok, alors, ensuite, on voulait vous parler un peu de l'Algérie. Malheureusement... on n'a pas trouvé tellement d'infos. En fait, apparemment, il y a beaucoup de distributeurs de billets qui sont vandalisés dernièrement. Mais le seul article que j'ai trouvé qui en parle dénonce surtout le fait de vandaliser les distributeurs et ne dit pas grand-chose. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Par contre, j'ai trouvé une petite histoire du coup, qui se passe en Algérie, à Tébessa, où plusieurs dizaines de jeunes ont attaqué un commissariat à coups de pierre et de cocktails Molotov. Et pourquoi donc ? Parce que juste avant, une demi-heure plus tôt, les flics avaient arrêté le propriétaire d'un dépôt illégal de boissons alcoolisées. Et du coup, quand il s'est fait arrêter, il a réussi à alerter un peu ses amis, sa famille et surtout ses clients. Et c'est ses clients qui ont décidé d'aller un peu chaviter les keufs. Voilà pour l'Algérie.
Et ben il se passe aussi encore des choses en Tunisie. Hein, la révolution de l'année dernière n'a pas tout à fait apaisé les conflits et les révoltes. Et du coup, notamment dans le bassin minier du sud-ouest de la Tunisie, dans la région de Gafsa, parce que là-bas, depuis un certain nombre d'années, c'est la CPG, la compagnie des phosphates de Gafsa, qui est devenue quasiment le seul employeur de la région. En parallèle, il y a un taux de chômage qui est d'environ 50%, donc voilà, une personne sur deux qui n'a pas de boulot. Et donc le phosphate qui avait été découvert dans les sous-sols en 86, il a profité d'abord aux Français pendant la colonisation, et puis ensuite au régime de Bourguiba, celui de Ben Ali, et maintenant notamment, et depuis plus de 30 ans, à la compagnie de phosphate de Gafsa, qui elle-même fait partie du groupe chimique tunisien, une entreprise publique, qui lui-même, bien sûr, fait des bénéfices colossaux. Puisque la Tunisie, c'est le cinquième producteur mondial de phosphate. Donc voilà. Du coup, le groupe chimique tunisien roule sur l'or, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, dans cette région, ben, les gens galèrent sérieusement et depuis un certain nombre d'années se révoltent. Il y avait notamment eu en 2008 plusieurs mois de révolte qui avaient donné lieu à une répression assez importante. Alors où il y avait eu des morts, on ne sait pas exactement combien, et puis des centaines d'arrestations. Et depuis 2008, ça ne s'est jamais tout à fait arrêté. La situation, elle est restée la même après la révolution. Et voilà, les gens disent que rien n'a changé, que la misère et l'injustice sont encore leur quotidien. Du coup, il y a eu des révoltes encore ces derniers mois, en mars, en janvier, et puis surtout en novembre dernier, parce que la compagnie des phosphates de Gafsa embauche. Elle embauche et du coup, elle a lancé un premier concours de recrutement au mois de novembre dernier, qui a été annulé depuis parce que la publication des résultats avait provoqué une vague de révoltes dans la région, parce qu'il y avait un nombre évidemment démesuré de gens qui n'étaient pas embauchés et qui du coup allaient rester dans leur merde et qui étaient déçus de pas avoir de boulot, ce qui voilà. Et donc, vague de révolte au mois de novembre. Alors, notamment à Homme-la-Rayès, les bâtiments de la compagnie ont été incendiés. Et du coup, les responsables de l'entreprise ont foutu le camp à Gavza, qui est la capitale de la région. Le gouverneur aussi. Enfin bon, voilà, donc un peu désertion des lieux. Et ça, c'était au mois de novembre. Et il y a donc eu un deuxième concours qui a eu lieu, dont les résultats, ils ont commencé à être publiés ces dernières semaines. Et alors cette fois, ils ont décidé d'échelonner la publication des résultats, histoire d'éviter les incidents. Donc pas donner les résultats partout en même temps dans la région. Semble-t-il, ça ne suffit pas, puisque les émeutes ont repris à Homme-la-Rayès et notamment à Dila. Donc il y a eu des affrontements avec les flics et puis notamment l'incendie d'un poste de la police des frontières et des étrangers. C'est pas très loin de la frontière algérienne, Homme-la-Rayès. Voilà. Donc en réponse, le ministère de l'Intérieur a décrété un couvre-feu. Et depuis plus d'une semaine, les chômeurs du bassin minier squattent donc devant le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi à Gavza pour réclamer donc du boulot. Voilà. D'après les infos qu'on a, samedi, ils y étaient toujours. Là, on ne sait pas exactement ce qu'il en est ces jours-ci. Il demande donc à être ajouté à la liste des ennemis au concours et puis à ce que les richesses des mines, elles profitent à la région et puis aux gens qui y vivent. Voilà. Il y a eu notamment aussi des résultats qui étaient annoncés à Redeyef, une ville voisine, samedi. On n'a pas de nouvelles exactes, mais on sait juste que la garde nationale et la police, elles s'étaient retirées de la ville pour l'annonce des résultats, remplacées par l'armée, qui avait pris position devant les bâtiments administratifs et les carrefours stratégiques. Voilà, donc ils essaient de prévoir un peu les émeutes avant qu'elles n'aient lieu et d'empêcher qu'il se passe quelques contestations, que ce soit malgré tout, les gens se battent et là, on n'a pas l'air prêt à baisser les bras tout de suite, quoi.
Et donc, du coup, toujours en Tunisie, et un peu dans la même... toujours dans une histoire de richesse minière. Donc à Tataouine, il y avait un projet de construction d'un gazoduc et d'une station de traitement de gaz. Et donc dans cette région qui est très pauvre et où il y a un taux de chômage très élevé aussi, ça faisait espérer la création d'emplois, un certain développement économique, etc. Et jeudi dernier, le ministre tunisien de l'Industrie et du Commerce a annoncé sur une radio locale, donc Radio Tataouine, que le gouvernement abandonnait ses projets. Du coup, il y a eu une marche qui a eu lieu dimanche matin dans les rues de Tataouine. Et dans la foulée, la Ligue populaire pour la protection de la révolution a lancé un appel à la grève générale pour demain, le 24 avril. La CGT locale, qui s'appelle l'Union Générale Tunisienne du Travail, a tout de suite pris le parti des travailleurs en appelant à boycotter la grève générale de demain et en disant qu'il n'y était pour rien dans cet appel. Donc voilà, une autre lutte en Tunisie, pardon. Et il y a eu aussi un petit écho à Kasserine, où des lycéens ont protesté, alors on ne sait pas exactement ce qui en est, et qui se sont fait gazer par les flics, de même que ceux que les élèves qui étaient restés aussi dans les classes, puisque le gaz s'est propagé dans tout l'établissement. Voilà.
Continuer sur la Tunisie, je vais vous faire une petite lecture d'un poème qui a été écrit en dialecte tunisien par Wala Kasmi. Il a été écrit en janvier 2011 et il a été traduit et adapté par Téméraire Mirage, qui est une maison d'édition. Alors, qui a fait la révolution? Ce sont les frachiches, ce sont les hamanas et pas les riches. Ce sont les portefeux, les cireurs et les maçons des chantiers. Ce sont les chômeurs et les vagabonds, les gueux et les mendiants. Ce sont les va-nu-pieds et les fils de la balafrée. Ce sont les marchands ambulants qui ont fait cette révolution. Ce sont les enfants de Tala, de Kasserine, Régueb et Jalma, de Bouzaïen, Sidi Bouzid et Meknassi, les enfants oubliés de l'arrière-pays. C'est la révolution des opprimés, des ignorés et des maltraités. C'est la révolution des truands, des misérables et des mendiants. Ceux qui passent dans les cafés tout leur temps. Ceux qui jouent à la scopa et au rami et achètent les cristals à crédit. Cette révolution est faite par les passeurs de frontières, par les immigrés clandestins qui affrontent la mer. Cette révolution est celle de ceux qui n'ont jamais appris l'hymne national. C'est la révolution des insultés, de ceux qui sont ridiculisés par l'épicier, ceux qui sont engueulés par le boucher. C'est la révolution de ceux qui ne font pas de prévision, ceux qui n'ont pas de compréhension. C'est la révolution des clochards, de ceux pour qui leur million est un dinar et leur dinar vaut des milliards. C'est la révolution de ceux qui n'ont pas de bien, de ceux qui ne perdent rien s'ils ne gagnent rien. C'est la révolution de ceux qui sont à plaindre, de ceux qui respirent la poussière de l'albâtre au point que leurs cœurs sont devenus de marbre. C'est la révolution des fauchés, qui ont fait face au bal des policiers, habillés de leurs cachabias rapiécés. C'est la révolution de ceux qu'on fouille avec humiliation, ceux qu'on cache aux touristes de notre pays et qu'on ne laisse pas monter dans les taxis. C'est la révolution des ingrats, de Sedbi, Lakhdar et Merhazia, et Tawes et Manbouya, de ceux qui mangent la psissa et dînent de pain et de harissa. Ce sont eux qui nous ont appris la liberté. Dans un plat en or, ils nous l'ont offerte. Ils l'ont mise à nos pieds, ils se sont retournés à leur misère. Et de chaque tribu sont venus les amis, et sont venus les « t'as bien compris, et puisqu'il s'agit, et par conséquent, il se peut, et peut-être bien, il faut ». Est venue aussi l'opposition et la coalition, les Facebookers et les blogueurs, les ministres et les journalistes, les visionnaires et les juristes, les sociologues et les économistes, les poètes et les artistes. Pour redresser le taux du déficit et le taux du PIB net ou brut, dans la marge du développement des zones reculées et l'attachement à la révolution du peuple tyrannisé. Et comprendre le changement politique profond au niveau du Maghreb arabe sans fond et ceux qui ont prédit la révolution depuis 2 ans, certains même l'ont prophétisé depuis 20 ans. Et chacun des invités, avec sa cuillère, s'est mis à pâturer dans la marmite de la liberté qui lui a été servie dans son lit.
Assassin. ونقول تسمع ونضرب بس انت يعوي ونذبوش.
Radio Galère 88.4 avec ND Chaîne pour une émission sans pitié.
Radioactive.
Sans pitié.
Et donc on continue cet agenda un peu des luttes qui se passent un peu partout, avec plus là une chronique anticarcérale, avec des tentatives d'évasion, des évasions réussies et des mutineries qui ont lieu un peu partout dans les centres d'enfermement, que ce soit dans les centres de rétention ou dans les prisons et même dans les palais de justice. Et donc, je vais commencer par parler de ce qui s'est passé à Bologne, en Italie, où donc il y a eu une tentative d'évasion et une révolte dans le centre de rétention. Il faut savoir que depuis de nombreuses années, l'Italie connaît d'incessants mouvements de révolte dans ses centres de rétention. Les retenus refusent le sort qui leur est réservé et tentent notamment des évasions collectives, des tentatives d'incendie, etc., etc. Et donc là, dans la nuit du 15 avril, il y a une dizaine de retenus qui ont tenté de s'évader en grimpant au grillage. Et quand les matons ont tenté d'intervenir, bah là, c'est les autres retenus qui ont caillassé les keufs à coups de détritus et de morceaux de briques. Bon, malheureusement, la tentative a pas marché, l'évasion n'a pas marché et la révolte a été étouffée au bout de 2 heures. Par contre, il y en a une qui a marché, c'est au tribunal administratif de Toulouse, où là, c'est un sans-papier qui comparaissait pour une OQTF, donc c'est une obligation de quitter le territoire français, qui a réussi à s'esquiver du regard des keufs après le délibéré qui rejetait l'annulation de la décision de reconduite à la frontière. Voilà, il a réussi à se faire la malle et on lui souhaite une bonne belle. Sinon, toujours, là, c'est à la prison de Rennes, où il y a une mutinerie qui a éclaté. Ça a commencé vers 18h, où il y a une dizaine de détenus qui ont allumé des feux dans leurs cellules et après avoir tapé un maton pour récupérer les clés. Malheureusement, les IRIS sont intervenus, hein, comme d'habitude, et la justice s'est vite empressée de faire son sale boulot, en condamnant donc deux d'entre eux à 5 ans et les autres à 2 ans. Et ceux-là, c'est ceux qui avaient été désignés par l'administration pénitentiaire comme étant les leaders. Voilà, donc ça pète aussi dans les prisons belges, hein, qui connaissent beaucoup de mouvements de révolte dans les centres de rétention comme dans les prisons, hein, notamment contre les QHS. Et ces mouvements, ils font aussi beaucoup d'écho à l'extérieur. Hein. Il y a des actes de solidarité qui ont lieu régulièrement, notamment à travers des rassemblements devant les tôles et à travers d'attaques directes des représentants de l'administration pénitentiaire. Et le 15, il y a eu un engin artisanal qui a mis le feu à la toiture des grèves de la prison. Cet engin artisanal a été lancé de l'intérieur. Le 14, c'est deux prisonniers qui s'évadent après avoir pris en otage deux matons. Et ces deux prisonniers n'ont toujours pas été retrouvés. Et le 10, il y a eu aussi deux tentatives d'évasion, mais qui ont malheureusement échoué. Voilà, donc ça, c'était un petit aperçu de ce qui se passe dans les prisons. Et je vais laisser...
Pour rebondir.
Voilà.
Voilà. Et pour rebondir, il y a une vidéo, un court-métrage qui a été fait, qui s'appelle QHS et Rébellion, qui est disponible sur Internet, dont on a déjà parlé ici. Et en fait, ça bouge depuis de nombreuses années dans les prisons belges. Il y a donc beaucoup de mutineries, beaucoup de révoltes individuelles et collectives. Et notamment depuis 2008. En 2008, il y a eu une espèce de vague comme ça de révolte. Et suite à ça, et ben, en Belgique, le système carcéral a créé ce que nous, on connaissait en France depuis longtemps. Enfin, je pense, voilà, sous le nom de QHS, donc quartier haute sécurité. Qui sont des conditions de détention un peu spéciales pour prisonniers vénères et rebelles. Donc c'est torture blanche, isolement d'essence et compagnie. Et ce qui se passe là-bas, la particularité aussi, c'est qu'il y a énormément d'échos qui se font à l'extérieur. Donc il y a beaucoup de liens entre l'intérieur et l'extérieur. Et qu'il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui relaient les luttes de l'intérieur et qui font passer le mot et qui se bougent. Et ce film, il est fait là-dessus, il est disponible sur Internet. Donc voilà, ça dure 25 minutes. QHS et Rébellion. Et on vous conseille tout vivement, en tout cas, d'aller jeter un œil là-dessus. Voilà.
Et moi, je vais continuer toujours dans le sujet. Je voulais vous parler d'un livre qui va faire suite à un petit montage parce que ça me paraissait mieux de ne pas le lire. Pour pas mal le lire, et dans tous les cas, c'est un livre qui a été écrit par Jean-Marc Rouillant. Ça s'appelle « Autopsie du dehors ». C'est sorti dans une collection dont, a priori, on risque de vous reparler, qui s'appelle « Al Dante ». Et comme ils le disent, Al comme Al Capone et Dante comme l'enfer. C'est une maison d'édition marseillaise qui décide de produire des choses politiques et dans un papier un peu bien fait. Je voulais juste le début. Donc Marseille, dehors il y a vous, des milliers de gens que je ne connais pas. Dedans, on sait qui est chacun d'entre nous, ceux du dedans, gardiens et prisonniers. Et souvent, on perd des heures à de rituels salam alek. On sait tout de l'autre, ou presque. Qui il a tué, comment, avec quel complice, du moment et pour quelle sombre cause, et enfin, de combien il a écopé. On sait où il a été détenu et quand il passera devant le juge de l'application des peines. On connaît jusqu'à ses inquiétudes, ses délires, ses petites histoires. Parfois, on a rencontré sa famille et ses amis dehors. Non, et ses amis. Dehors, je ne sais rien de vous. Pourtant, quelque chose nous sépare et nous unit à la fois. Une fausse intimité. Donc voilà, c'était le début et on vous a écouté juste un petit passage du livre qui, moi, m'a bien plu. Et juste vous rappeler, voilà, Jean-Marc Rouillant, sorti aux éditions Agone et qui sont de très bons livres, c'est ses mémoires, de mémoire 1 jusqu'à 3. Que... Montage, donc voilà, c'était extrait du livre « Autopsie du dehors » de Jean-Marc Rouillant.
En prison, j'ai connu des assassins, des meurtriers, des fratricides, des infanticides, des matricides, des parricides. En prison, j'ai connu des tueurs au service de grands patrons, des flics du sac tueurs à gages, des gendarmes dégradés ayant du sang sur les mains, et même des matons. En prison, j'ai connu des criminels crapuleux, des criminels passionnels. Ils ont tué leurs femmes, des hommes, des femmes d'autres hommes d'autres femmes, des enfants, des petits et des grands, des vieillards, des tout crochus. J'ai même côtoyé des criminels qui tuaient sans le moindre motif, sans la moindre raison, des gens comme vous et moi, et d'autres, des vraiment retors, torturés par le désir du crime parfait. En prison, j'ai connu des mecs qui ont mangé de la viande humaine et certains ont bu du sang, comme les vampires que vous croisez au cinéma et qui vous effraient quand vous vous retrouvez seul dans le noir ou qui vous amusent parce que vous êtes convaincu qu'ils n'existent que dans les films. J'ai vécu longtemps avec des gars qui ont sucé de la cervelle. Quand je les croisais, je ne pouvais m'empêcher de regarder leur bouche. J'ai vécu longtemps avec des gastronomes qui me parlaient de leur recette du poumon rissolé et du pied de portugais à l'étouffée. Certains ne cuisinaient même pas les cadavres. Ils mangeaient comme mangent les fauves croquant du gnou ou de la gazelle à quatre pattes à même le sol à pleines dents. D'autres dégustaient à table avec un couteau et une fourchette. Autour du cou, une serviette. Certains cannibales se souviennent du goût de la chair humaine. D'autres, absolument pas. Les premiers auraient apprécié la saveur sucrée de cette viande. J'ai vécu longtemps avec des cannibales. J'évitais de leur tourner le dos avec ce sentiment bizarre d'être considéré comme une denrée périssable. En prison, j'ai connu des violeurs. J'ai connu des violeurs de vieilles femmes, des violeurs d'hommes, de petites filles, de jeunes garçons, de bébés à peine nés. En prison, j'ai connu bien des adeptes d'attentats à la pudeur avec ou sans violence, des partisans de l'outrage à la pudeur. En prison, j'ai connu des violeurs de cadavres dans les morgues. J'ai connu un tueur qui déterrait ses victimes pour les violer une seconde fois. Certains de vous ont sûrement rencontré des anthropologues, des anthropophiles, et vous avez entendu parler des anthropopithèques et des anthropoïdes. Certains de mes voisins étaient anthropophages et d'autres nécrophiles, et parfois les deux à la fois. En prison, j'ai connu des facettes de l'homme dont vous ignorez tout. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. Pourtant, ils sont parmi vous. Je sais que le plus banal et le plus éduqué d'entre vous peut se révéler d'une nature extraordinaire et criminelle. Quand je vous vois dans la rue, je sais que vous en êtes capable. Vous portez cela en vous, car le système lui-même ressemble à ces criminels. Il est le plus grand des criminels. Quand je vous vois dans la rue, je sais que vous en êtes capable. Vous portez cela en vous, car le système lui-même ressemble à ces criminels. Il est le plus grand des criminels.
Donc le sujet d'après, ce montage qu'on vous a déjà passé et qui nous avait fait bien plaisir, et donc on va vous repasser
Surtout, on va pas vous infliger Prodigy plus longtemps.
Et surtout, donc, de rappeler que, comme ce montage est tiré d'une émission qu'on avait fait l'année dernière, à peu près à la même époque, et donc que vous pouvez retrouver sur notre superbe site internet, qui est donc, vous tapez NDChaîne sur votre moteur de recherche préféré.
Ouais, NDChaîne.free.fr.
Et sinon, c'est NDChaîne.free.fr. Merci, la voix.
Je suis la voix.
Et donc, vous pourrez écouter nos montages déjà sur quasiment 3 années, toutes les émissions passées, même les plus récentes. C'est dans Archive, mais c'est récent. Et donc, c'est tiré ce Homo Porcus, c'est sur le sujet des cochons, le rapport entre l'homme et le cochon, tiré d'une revue finissante.
Qui est publiée chez les âmes d'Atala. C'est une revue pédophile, consanguine, échômeuse, et elle emmerde le code de la propriété intellectuelle. Voilà.
C'est avec ça que vous avez compris. Donc, dans tous les cas, vous pouvez aller sur leur
c'est
blog.
Beaucoup c'est beaucoup une revue littéraire. Littéraire politique. Je ne sais pas comment définir, mais
et
ça serait un peu ça.
Et poétique. Il faudrait rappeler juste que c'est du grand schnorr. C'est pour ça qu'ils ont marqué pédophile et chômeur. À certains, ça rappellera quelque chose. Et que donc, vous pouvez... Parce que vous dites comme ça, c'est un peu sec.
C'est sur la banderole. Ouais.
Et donc, sinon, c'est sur Atala. Presque comme ça se prononce.
Âmes d'Atala.
Les âmes d'Atala. Et voilà, ils en sont déjà au numéro 4. Il semblerait que le numéro 5 sorte. Donc, on vous laisse savourer ce moment de pure poésie, écrit donc du grand froid. Et ça s'appelle Homo Porcus.
Ouais, je vais t'en raconter une bonne.
Nous ne passerons pas par quatre chemins. Nous n'emprunterons pas les rues tortueuses du préjugé ni les sentiers boueux de la persuasion, pas plus les routes escarpées du jargonnage ou les autoroutes embouteillées des lieux communs. L'être humain contemporain, ce valet du marchandage, élevé et parqué dans le seul but d'obéir, turbiner, trimarder, grogner, piétiner, procréer, se faire bouffer et humilier, n'a jamais eu autant l'impression qu'aujourd'hui d'être une merde. Il fut une époque où le valet se savait valet, où un valet ne valait qu'un valet, ni plus ni moins. L'estime de soi n'avait pas encore dévalé la pente de l'ego pour venir se vautrer dans la fosse sceptique de la fausse conscience. Désormais, le valet qui nie jusqu'à sa condition de valet est convaincu de ne plus rien valoir du tout. Rares sont ceux qui assument publiquement l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes une bouse. Dans une société préventive, hygiéniste, légiférant sans cesse sur les risques et les tolérances zéro, le complexe de l'étron est une menace, un virus social, susceptible de contaminer et de remettre en cause la confiance aveugle sur laquelle le système se repose. Pire, cette organisation sociale vacillante est dans l'incapacité de freiner la propagation de cette crise morale symptomatique dont elle porte l'entière responsabilité. Elle ne sait plus que nous divertir, détourner notre attention sous un déluge incontinent d'informations, d'images et de sons inconséquents. Cette puissante dépréciation morale ne doit pas éclater au grand jour. Il en va de l'hygiène et du confort social, de la bonne tenue de l'ordre régnant.
Cette impression forte, quasi fétide, d'être parvenu au stade final de l'avilissement et du déni de soi, ce sentiment d'être pire que rien, est si répandu qu'il devrait inviter la plupart des intellectuels à parler désormais de merdification. L'expression couramment employée sur le ton du reproche, ne pas se prendre pour de la merde, montre à quel point l'humain moderne a intégré ce qui est devenu à ses yeux une qualité, s'ingénier en permanence à se prendre pour une fiente. Remarquons que celui qui donne l'impression de ne pas se prendre pour de la merde est souvent celui chez qui le sentiment d'en être une est le plus fort. Cette assertion se vérifie également dans l'emploi du mot « merdeux », à travers lequel désormais les parents transmettent aux enfants leur honte d'exister. L'injure « enculé » peut être quant à elle interprétée comme l'expression inversée de la merdification, dans un souci d'obturation. Elle convient parfaitement pour désigner les gestionnaires de ce monde.
Na 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 na.
Rassurons toutefois nos proches et nos animaux de compagnie. Même en ayant la certitude indécrottable d'être une merde, la conviction de l'homme moderne ne résiste pas à l'épreuve du réel. Les faits sont là. Il a beau naître comme on défèque et vivre dans la mouise, biologiquement, l'humain contemporain ne peut pas être assimilé à une épreinte. Il est ontologiquement impossible de le réduire à une déjection de l'appareil digestif détraqué d'un corps social stressé. C'est naïf et mensonger de concevoir cet être misérable comme un vulgaire étron flottant sur l'eau stagnante de la cuvette du vieux monde. S'il y a un enseignement à tirer de l'expérience humaine, c'est bien celui de ne jamais se fier aux apparences. Mais la merdification, ce syndrome de la fiente, est d'une telle intensité, si répandue, que l'homme moderne ne peut même plus prétendre être une chose, ni être autre chose qu'une crotte, et même n'être autre que crotte. Le niveau de merdification est tel dans le système capitaliste actuel qu'il ne se borne plus à la simple perception de soi. Le rapport des gouvernants avec leurs sujets, des gestionnaires avec leurs ressources humaines, qu'ils considèrent naturellement comme de la merde, s'est généralisé à toute la société. Si chacun se considère comme de la merde, chacun considère l'autre, par extension, et dans un souci d'égalité démocratique, de même.
Si l'homme moderne a effectivement le sentiment d'être une merde, alors même qu'intrinsèquement il n'en est pas une, qu'est-il réellement ? Quelle vie mène-t-il ou lui fait-on mener pour avoir une telle perception de lui-même ? Et puis, pourquoi une merde ? Pourquoi pas un cloporte, une huître, un caillou, une tige, une moisissure, une coulure, une morve ? Esclaves, valets, larbins, prolétaires, exploités, travailleurs, vendus, marchandises, pauvres ! Si tous ces termes caractérisent à leur façon la condition de l'homme moderne, ce n'est que dans une certaine limite. Cette limite fixée par le niveau d'indifférence et de rejet de l'humain contemporain devant tous ces qualificatifs. Refusant de se considérer tel qu'il est dans ce monde, il préfère se réfugier dans le nihilisme accompli, l'anéantissement existentiel, en se considérant pire que rien, une merde installée dans un confort relatif. Par exemple, cette habitude, prise par les sociétés modernes, de muséifier les lieux d'exploitation du passé, dans l'intention ultime de valoriser l'esclavage d'hier et l'acceptation de l'exploitation présente. Illustration parmi d'autres du profond mépris que l'homme contemporain porte à l'égard de lui-même. À toutes celles et tous ceux qui n'ont pas que de la merde dans les yeux, la condition de l'homme moderne est comparable à celle du porc. Pour corroborer notre propos, nous n'hésiterons pas à nous appuyer sur les résultats des plus récents travaux scientifiques en montrant que l'homme est l'animal le plus proche du cochon.
Who killed my bear? Who killed my bear? Who killed my bear?
Soyez rassurés, notre intention n'est pas, en voulant comparer l'existence de l'homme moderne et celle du cochon, d'abaisser l'un par rapport à l'autre, ni de les réduire tous deux à des insultes faciles, où pour le cochon, homme deviendrait aussi injurieux pour ses congénères que cochon l'est déjà pour l'espèce humaine. Il s'agit pour nous, en toute modestie, de dresser un constat, de faire état de l'existence humaine contemporaine, de l'esquisser à grands traits dans une démarche sociologique et anthropologique dépouillée de l'argutie universitaire. Le parallèle avec le cochon tombe sous le sens. Le système politique, dominé par l'idéologie économique, ne conçoit pas la vie du travailleur, cet esclave, ce larbin, autrement que comme une vie de bête, et précisément comme une vie de cochon. La marchandise et l'argent donnent à l'exploité l'illusion du dépassement de sa condition porcine, tout en entraînant chez lui ce sentiment dépréciateur d'être une merde. Pour les théoriciens et les gestionnaires du système capitaliste, le but ultime de l'être humain se résume à se goinfrer et à travailler pour se goinfrer, c'est-à-dire survivre. Il ne faut pas s'étonner que l'homme moderne ait autant le sentiment aujourd'hui d'être une grosse merde. Il suffit de voir comme il est toujours plus déconsidéré et humilié, avec des conditions de vie toujours plus dégradées et falsifiées, avec la nourriture de mauvaise qualité, logement vétuste, boulot corvéable, loisirs pauvres, relations sociales superficielles. Personne n'échappe dans un tel système à cette vie misérablement besogneuse. L'illusion serait ici de croire que les riches ne mènent pas eux-mêmes une vie de cochon moderne, quand ils sont la plupart du temps dénués de la conscience nécessaire à l'appréciation des conditions liées à leur rang social. Par nature, le bourgeois ne sait pas profiter du profit, puisque son seul but dans la vie de bourgeois, c'est le profit lui-même, c'est-à-dire la goinfrerie sans fin du goré. Le riche est le roi du système. Il ne représente que le trop-plein de ce monde, une excroissance, néanmoins indispensable à son fonctionnement. Le bourgeois doit se contenter d'une vie de merde, très confortable. Rien d'étonnant que nous soyons si souvent tentés de le comparer, quand il nous arrive de le croiser, de par sa gestuelle et ses bavardages, au bousier.
Revenons à nos cochons. Même si notre rigueur intellectuelle nous prévient contre tout fourvoiement, il est tentant de tomber dans l'anthropomorphisme le plus simpliste en comparant les troupeaux humains aux peuplades porcines. Tant la proximité entre ces deux groupes est frappante. Notons également que depuis plus d'un siècle, les esclaves tendent comme un miroir à leur progéniture, dès leur plus jeune âge, des images de cochons dans le but inavoué que ces chiards, à terme, s'y identifient. Un symbole significatif de l'esprit porcin du capitalisme n'est-il pas par ailleurs la tirelire en forme de porcelet qui a pour but de familiariser très tôt l'enfant d'esclave à la misère de l'économie? Les origines de la cochonne tirelire sont à chercher dans la tradition paysanne d'Ancien Régime qui faisait de la truie un symbole de fertilité et d'abondance. Mais c'est la bourgeoisie qui a popularisé cet objet à partir de la révolution industrielle. C'est avec la question de l'exploitation économique et plus précisément de la domestication qu'on peut dessiner un premier rapprochement entre l'être humain et le cochon. Comparé en effet à bien d'autres espèces, ces bestiaux se caractérisent par leur facilité à être domestiqués. Soumis, dociles, obéissants, peu farouches, on les surveille sans trop de difficultés. Et ceux qui ne gâchent rien, ils sont faciles à nourrir puisque, étant omnivores, on leur fait manger à peu près n'importe quoi, jusqu'à des charognes et qu'à limite, des excréments. Enfin, leur taux de reproduction est plus que convenable. On comprend mieux pourquoi l'homme et le cochon sont des viandes qui continuent à s'échanger sur le marché à des prix relativement bas. L'histoire du cochon, qui est avant tout l'histoire de sa domestication, est étroitement liée à l'histoire de la domestication de l'homme. La domestication du cochon correspond à la sédentarisation de l'homme, c'est-à-dire à la période marquant les débuts de la domestication de l'homme par lui-même. Ce processus de domestication marque chez les suidés une séparation définitive entre le sanglier et le cochon. Le sanglier, symbole de liberté et d'indépendance, indomptable et solitaire, porcus singularis, s'est forgé à travers les siècles une réputation de guerrier puissant et courageux qui ne fuit jamais devant l'assaillant. Tout le contraire, finalement, de son frère, le cochon, et de son cousin éloigné, l'homme moderne. Au Au Moyen-Âge, le cochon domestique à l'image de l'homme assujetti et méprisé par la chrétienté, qui réduit l'innocent animal à des penchants prétendument vulgaires, prisonnier qu'il serait de ses instincts les plus grossiers. Certains médiévaux, superstitieux, ceux-là même qui n'hésitent pas à le traîner devant les tribunaux, dénoncent l'impiété de la bête chez qui pourtant, dans un paradoxe typiquement humain, il est dit que tout est bon. Le cochon serait même diabolique, le malheureux ayant la fâcheuse tendance de ne jamais lever les yeux au ciel, signant ainsi son irrespect à l'égard du divin. Comme le diable, le cochon aime se vautrer dans l'ordure. On lui reproche de consacrer l'essentiel de son temps à renifler le sol, à l'affût d'une matière plus ou moins comestible à niaffrer. En définitive, les autorités religieuses reprochent aux cochons ce qu'elles reprochent à leurs ouailles, impiété, gourmandise, luxure, ignorance.
La comparaison entre l'homme et le cochon pourrait s'arrêter là. Mais nous éluderions alors un autre point, les ressemblances physiques entre les deux bêtes. Cette proximité physique est telle que dans certaines situations inconfortables, il nous arrive de ne plus savoir à qui nous avons affaire, un porc ou un être humain. Cette similitude conduit depuis quelque temps à désigner sous le vocable « porc » tout salarié de la maison Poulaga. Dans les pays anglo-saxons, la ressemblance entre l'homme en bleu et l'animal rose est plus frappante encore. Elle est attestée par l'emploi du mot « pig » pour désigner la flicaille. Au Moyen-Âge, les apprentis médecins étudient l'anatomie humaine à partir de la dissection de la truie et du verrat. Sous l'Ancien Régime, les artistes peintres peignent les entrailles de cochons pour leur ressemblance avec celles de leurs congénères. Aujourd'hui, en raison de cette proximité biologique, le cochon, transformé en cobaye, est utilisé en recherche médicale et dans les applications thérapeutiques. Autre chose, le cri du cochon fait écho au cri humain. Autre similitude qui rapproche familièrement l'homme du cochon sans aller jusqu'aux supputations zoophiliques, la sexualité. On notera par exemple, à la différence de nombreux autres mammifères, que l'acte sexuel chez le suidé est, comme chez l'être humain, relativement long. Plus troublant encore, il a été observé que lors de l'accouplement, le verrat émet des grognements comparables à ceux du mâle humain, ce vieux cochon. Ajoutons à cela que la luxure que toutes les grandes religions monothéistes perdent leur temps à condamner est symbolisée chez les chrétiens par le cochon depuis la fin du Moyen-Âge. La religion est ainsi parvenue à associer sexualité et saleté. C'est ce qui donnera au qualificatif cochon le double sens de lubricité et de malpropreté en y rattachant l'obscénité et la perversité.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi saoul que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient. le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des trois ans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova, et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalan, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière, en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux, et plus ça devient...
Il faut certainement comprendre le tabou religieux qui pèse sur le porc, en particulier chez les musulmans et les juifs, comme l'expression d'un malaise existentiel de l'homme face à son double porcin. La religion se caractérise par un déni de la bestialité humaine, un refus de considérer la part animale de l'homme. Le rapport qu'entretiennent les principales religions monothéistes avec les porcs est à chercher dans ce mépris de la vie terrestre, et en particulier de l'homme, et de son corollaire, le cochon. Dieu a fait le porc à l'image de l'homme. Les juifs et les musulmans ont tabouisé le porc. Il ressort deux grandes hypothèses qui tendent à expliquer ce tabou. La première est la question du cannibalisme. Cette impression pour l'humain, en mangeant du cochon, de manger un de ses congénères. La ressemblance est telle, entre l'homme et le cochon, que certains chercheurs affirment que la chair humaine a un goût très proche de celui de la chair porcine. La seconde hypothèse est la difficulté pendant longtemps qu'ont eu les humains à ranger le porc dans une catégorie répertoriée, à le classifier dans une famille ou une espèce animale connue. Perplexe, ils ne comprenaient pas que la bête avait, comme tous les ruminants, le sabot fendu, alors même qu'elle ne ruminait pas. Le cochon n'échappe évidemment pas à la déconsidération et au mépris dans la religion chrétienne, même si la relation que celle-ci entretient avec l'animal a toujours été ambivalente. Une des raisons de la tolérance chrétienne à l'égard de cet animal satanique est le souci de se démarquer et de se distinguer avec provocation et ostentation du judaïsme. Toutefois, le porc n'a pas toujours eu une image négative. Dans de nombreux rites antiques, le verra ou la truie sont liés symboliquement aux moissons, à la nature fertile et à la fécondité.
Les relations qu'entretiennent l'homme et le cochon sont ambivalentes, faites à la fois d'attirance et de rejet, d'affection et de répulsion. L'explication la plus plausible est à rechercher dans ce cousinage, cette ressemblance physique, biologique, conduisant l'homme moderne à percevoir le cochon comme un reflet de lui-même. Toutefois, si la ressemblance entre les deux bêtes est aujourd'hui incontestable, il faut préciser qu'elle est la conséquence d'un long processus mimétique de plusieurs siècles, qui s'est accéléré avec les mouvements révolutionnaires des XVIIIe et XIXe siècles. Cette période charnière a donné à l'homme moderne l'illusion de l'émancipation. Elle n'a été en réalité que le moment transitoire du passage d'une forme de domination à une autre, tout en faisant accroire que tout acte et toute décision politique obéirait désormais à l'intérêt commun. Or, cet intérêt commun n'est que l'intérêt de l'économie. C'est l'affirmation et l'acceptation de la condition porcine de l'homme moderne qui s'est jouée alors. Au nom de l'économie, la vie de l'homme moderne s'est retrouvée réduite à une vie de cochon, cantonnée à la satisfaction des besoins physiologiques, qu'il doit accepter dès le plus jeune âge, sans grogner, sans couiner ni grouiner. À partir de juin 1791, avant que le roi ne perde définitivement la tête, les caricaturistes antiroyalistes, eux, se la payent joyeusement, en peignant Louis XVI sous les traits d'un cochon. Ces caricatures foisonnent et perdureront jusqu'à la fin de la Révolution. Et elles peuvent être interprétées sur deux niveaux. D'abord, la caricature porcine a pour objectif de rabaisser et d'humilier le roi à travers cet animal infâme, paresseux et gras, dont la seule destinée est d'être tué pour être bouffé. Il s'agit donc ici d'une attaque visant le pouvoir à travers la mise à mort symbolique du souverain. La guillotine n'est qu'un bio de boucher amélioré. Mais sur un second plan, la caricature porcine décrit la chute du souverain, qui du sommet de la pyramide sociale tombe au plus bas, à savoir au milieu de la ferme, au cœur du monde paysan, dont le cochon est à l'époque l'animal familier. Le roi cochon chute de son trône et se retrouve au même niveau que ses sujets, sur un pied de cochon d'égalité. Il est intéressant de remarquer que la transformation zoomorphique du roi est le plus souvent partielle, la tête ou le corps du porc. En caricaturant ainsi le roi, avec cette indécision qui le reconnaît à la fois homme et Vera, les anti-royalistes soulignent, plus ou moins inconsciemment, la proximité qui déjà se dessine entre la condition du peuple et celle du porc. Nous voyons ici les prémices d'une affirmation de l'identité porcine chez l'homme moderne. Un siècle plus tard, la société marchande poursuit sa construction identitaire à travers la symbolique cochonne. On constate par exemple que dans la deuxième moitié du 19e jusqu'au début du 20e, le cochon est l'animal le plus employé dans la caricature politique. Usant de tous les attributs symboliques de la bête, saleté, luxure, bêtise, goinfrerie. La caricature n'épargne à l'époque aucune tendance politique et intellectuelle, aucun groupe social ou religieux. Et puis il y a aussi dans les années 20, des caricaturistes allemands comme George Gors, Hans Grunding, qui eux ne se privent pas d'attaquer l'intégrité physique et morale du bourgeois en figurant ce symbole de décadence et de vulgarité en cochon, avant de l'évincer 10 ans plus tard par la figure du porc nazi.
Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête. Disent-ils, monsieur le commissaire, les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
Le spectacle paranoïaque et angoissé du système capitaliste, confronté à l'éventualité d'une épidémie de grippe A, a montré comme ce dernier est peu assuré de son devenir, prêt, dans un mouvement de panique, à aller jusqu'à remettre en question le postulat même de l'économie, le temps infini. La défense du système a été de rejeter sur le porc la responsabilité de cette pandémie annoncée, sans démontrer pour autant la culpabilité de l'animal, accusé d'être à lui seul à l'origine de ce virus grippal. Le XXe siècle, cet abattoir à ciel ouvert, ce siècle d'écarisseurs, de charcutiers et de tripiers, a été inauguré par une boucherie, la Première Guerre mondiale. Cette boucherie s'est terminée avec la grippe espagnole, qui a décimé entre 20 à 100 millions d'individus, soit au moins 3 fois plus de morts que la boucherie des tranchées. L'hypothèse la plus plausible quant au développement de la souche du virus de cette grippe espagnole est un virus mutant issu de l'interaction des populations humaines, porcines et aviaires. Faire porter aux lardres toute la responsabilité de l'épidémie est une façon d'omettre que l'homme est aussi, par nature, un parasite. Le porc en est depuis des millénaires à la fois le témoin privilégié et la victime expiatoire. Il est amusant de constater que dans cette époque qui nous est vendue, technologique, compétitive, esthétique, festive, hygiénique, en temps réel, nous y vivons comme des porcs, que tout y est fait pour que nous nous complaisons dans un état bêtement porcin. Mais le problème, inédit dans l'histoire, est, répétons-le, que l'homme moderne a toutes les caractéristiques du cochon moderne, sans pour autant en être un. Il est amusant enfin de constater, suivant la dialectique moderne, que si effectivement, de l'être, le monde bourgeois nous a fait glisser vers l'avoir et le paraître, le miroir qui nous est aujourd'hui tendu nous renvoie quotidiennement l'image du goré impassible, image derrière laquelle se dissimulent tous les héros et les mythes contemporains, la vie en rose. En définitive, toutes les images produites par la société marchande ne sont que les représentations porcines, c'est-à-dire les images fausses d'un monde qui ne l'est pas moins.
Toujours au turbin du soir au matin, moi j'en ai marre. T'as toujours mangé de la vache enragée, moi j'en ai marre. Se dire que ma peine, je la traîne fourbu, jusqu'à ce que je crève sans rêve, sans but. N'avoir pour toilette que celle que l'on jette, moi j'en ai marre. N'avoir pour croque-nous que ceux qui prennent de l'eau, moi j'en ai marre. Si c'est ça la vie, eh bien je vous le déclare. C'est pas rigolo, et moi j'en ai marre. Toujours au turbin du soir au matin, moi j'en ai marre. Vivre nuit et jour sans un peu d'amour, moi j'en ai marre. En fait de tendresse, de caresse, je n'ai rien que celle que si bonne me donne mon chien. En recevoir des beignes sans que personne me plaigne, moi j'en ai marre. Voir quand on m'approche que les gens me trouvent moche, moi j'en ai marre. si c'est ça la vie, eh bien je vous le déclare, c'est pas rigolo, et moi j'en ai marre.
Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux, et bien avant que ça reparte.
Et on a noyé dans des lits d'essence le souvenir borgne de l'innocence, en équilibre sur un fil de feu, comme une corde à pendre au cou des fourgons bleus. C'est ni le pied ni la gloire qu'on tout crame, c'est même pas une réponse à la hauteur du drame. Mais c'est comme ça, c'est tout ce qui reste, quand le quartier fait même peur à la peste. Ma vie, mon cœur ne flanche pas, mon père, ma mère ne pleuraient pas. Si on se jette dehors avec le diable au corps, c'est qu'on refuse de vivre sans honorer nos morts.
Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux, et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore,
ça étonne encore,
qui veut nous foutre dehors. Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux, et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore,
qui ça étonne encore,
qui veut nous foutre dehors.
On n'a pas rendu l'âme, ni les armes. Regarde-moi bien, je suis la preuve que les frères sont craints. Voilà ce qu'on craint nos mains, ce que l'on sait faire de mieux. Depuis que l'homme a découvert le feu, l'avenir ne me dit rien et c'est réciproque. Les cons des pisses dans leur froc, sais-tu ce que m'évoque la fuite en vrac? Les nerfs au contact des flammes comme des cailloux de crack. Repliés sur nous-mêmes, quitte à trouver seul des solutions à nos problèmes. Qu'attendons-nous du système, à part ces euros? De loin la pire des guedrons.
Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux, et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore,
qui ça étonne encore,
qui veut nous foutre dehors. Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux, et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore,
qui ça étonne encore,
qui veut nous foutre dehors.
Ils m'ont parlé des 30 glorieuses, dois-je les avertir que la suite sera laborieuse. Purée, ils n'ont pas fait que jurer notre perte, censurer nos têtes, murer les portes et déclencher l'alerte. Quel sera le prochain à laisser des plumes sur le goudron? Quand pour un frangin abattu, ils diront ce qu'ils voudront. Il n'est plus question de calme, pleurer c'est pas notre cam. Et l'air est au napalm, qui sont les rats de laboratoire qui vont bouffer du rab. Prisonniers du sous-développement durable, vrais monstres élevés dans les ronces de ces sales races qui n'ont pas les réponses.
Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux, et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore,
qui ça étonne encore,
qui veut nous foutre dehors. Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux, et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore,
qui ça étonne encore,
qui veut nous foutre dehors.
97, 2007, déjà 10 piges que la rumeur vous jette le tort. Qui ça étonne encore,
hein?
Alors encore plus fort pour encore plus de Delport.
Toujours sur une des chaînes, et on va finir cette émission en rappelant un événement qui va se passer donc le 4 et 5 mai prochain, qui va se passer sur 2 jours et qui s'appelle Du son contre la prison. Donc en l'occurrence, en ce qui concerne la radio, c'est surtout un concert qui va se passer le 5 mai, qui sera diffusé en direct sur Radio Galère de 21h à minuit. Et Du son contre la prison, pourquoi Du son contre la prison? C'est un concert qui a pour but, en fait, qui n'est pas vraiment un spectacle, mais qui a pour but de faire du bruit à travers toute la France, qui sera diffusée sur pas mal d'antennes, toute la France, donc sur plus d'une trentaine de maisons d'arrêt, qui n'est pas organisée par l'administration pénitentiaire, ni par n'importe quel animateur socioculturel. Et voilà. Et du coup, donc on fait l'appel, parce que ça sera diffusé, que le but c'est que ça passe à travers les murs, que ça soit sans censure et que ça dénonce un peu la prison, le rôle qu'elle a aujourd'hui dans cette société, et que c'est fait pour casser la prison et l'isolement que provoque la prison. Voilà, donc on va vous passer, il y a des génériques qui passent régulièrement, et voilà. Et on vous en reparlera sûrement la semaine prochaine. En attendant, peut-être rappeler plusieurs rendez-vous, notamment l'émission par rapport à la prison qui se passe le samedi de 19h à 21h, qui est Parloir Libre.
Oui, parloir libre, donc samedi soir de 19h à 21h. Et de rappeler aussi que ND Chaîne fait une émission anticarcérale tout le dernier lundi de chaque mois. Donc c'est la semaine prochaine. Et donc aussi de rappeler que ce concert donc, en direct aura lieu un samedi soir, donc c'est le 5 mai. Ce sera justement juste après les parloirs. Et on invite à tout le monde à faire savoir à l'intérieur que ça a lieu. Parce que effectivement, le grand intérêt, c'est qu'il y ait cette espèce d'échange via les ondes entre l'intérieur et l'extérieur, dedans, dehors.
Et que c'est aujourd'hui le seul moyen qui nous reste pour passer des messages intérieur-extérieur sans censure, c'est la radio. Voilà, donc faites passer le mot et en attendant, nous, on se retrouve la semaine prochaine.
Donc voilà les jingles qu'on a été faits spécialement pour l'événement.
Bon son pour les détenus, du son sur les ondes, radio au travers des murs. C'est le 5 mai à Saint-Étienne, c'est à l'Ursa Mineure à 21h. Un concert contre la tôle en direct sur cette antenne. Faites passer le mot, faites passer le mot. Du son pour tisser des liens, dedans, dehors. La solidarité pour ne pas se taire, ne pas se laisser faire. Ne pas se laisser bâillonner par la prison. Succession de chaînes et de transferts, de verrous et de fouilles, de barreaux et de sanctions. De cachots et de privations, de miradors et d'humiliation, de temps volé à enlever. Il n'y a pas d'enfermement à visage humain. Une cage reste une cage. De la prison pour faire peur et faire accepter. Cadence et mutation, crédit anxiolytique, 3-8 et chômage, chaînes et travail, toujours du temps volé. Alors le temps d'un concert contre la censure pénitentiaire, casser le silence et l'isolement, faire circuler la parole des prisonniers et prisonnières et gueuler contre la prison et ce monde. C'est le 5 mai à Saint-Étienne à 21h. Faites passer le mot, faites passer le mot.
Donc faites passer le mot et donc à Marseille aussi il y a un rencard dimanche. Tu peux monter parce qu'en fait je n'arrive pas à lire. Donc dimanche 29, il y a un rencard à partir de 14h au jardin de Gibraltar avec des ateliers modelage, une démonstration de sculpture sur de gros troncs de platane, un atelier sieste, un tournoi de belote, friperie, troc de fringues, jardinage. À partir de 17h, il y aura des comptes, un one-man show et un concert. Voilà. Et à 20h, ce sera un repas sénégalais à prix libre. Voilà, ça se passe au jardin de Gibraltar et c'est 14 traverses de Gibraltar. Donc c'est à la Belle de Mai à Marseille. Et je pense qu'on a fini avec les rendez-vous et on a fini avec l'émission. Et donc à la semaine prochaine.
Ne pas baisser les bras et pas plus en dresser un, mais de prendre à bras le corps le problème d'une existence à embrasser, d'attraper à bras raccourcis ceux qui veulent raccourcir nos vies, faire un bras d'honneur à tous les fiers à bras et à tous les forts à bras de se révolter à leur en faire tomber les bras. Enfin qu'on se débarrasse de ces mille bras qui nous volent, qu'on les envoie à la casse, à ceux qui nous les cassent, et à tous les bras cassés, les bras armés.
Monsieur des fourmis dans les jambes, monsieur rêve de banque, de pillage, monsieur pense que les poulets sont devenus une pure vision de l'esprit, de nourrir des perspectives, nuances.
Alors à tous les bras cassés, à tous les bras armés, de ne pas rester les bras croisés, et de leur coûter un bras. Pas de bras, pas de chocolat. Alors à l'assaut, soyons abrasifs.